Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, notre dernier rendez-vous de la semaine. Ce soir, le numérique fait-il de nous une civilisation supérieure ? Il s'appelle Paul Duan, il a 23 ans, c'est un jeune entrepreneur français particulièrement prometteur. Son idée, fluidifier le marché de la recherche d'emploi grâce à un algorithme. Le ministère du Travail est intéressé, son application pourrait, si ce n'est abolir le chômage, du moins le faire baisser de 10%. Alors ce qui est intéressant dans le cas de Paul Duan, c'est la façon dont la presse s'est emparée de sa personne. Tout le monde se précipite vers lui comme le Messie, écrit le Figaro à son sujet. Ce petit génie peut vaincre le chômage en France, allait même jusqu'à affirmer le magazine Society du mois de décembre, prenant même le risque d'afficher en une un parfait inconnu, en tout cas pour l'instant. Alors ces élans d'enthousiasme ne sont pas rares s'agissant du numérique. On ne compte plus désormais les promesses de progrès jusqu'à celles de l'immortalité, mais s'agirait-il vraiment d'un progrès? Que permettrait cette révolution pour autant bien réelle? Alors à l'occasion de cette journée dans nos vies numériques que nous vous faisons vivre sur France Culture depuis ce matin, nous avons choisi de poser la question suivante. Le numérique fait-il de nous une civilisation supérieure? Et c'est donc notre sujet du jour. Et pour en discuter, trois invités. Marilène Patou-Matisse, bonsoir.
Bonsoir.
Vous n'êtes pas du tout une spécialiste du numérique, vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, rattachée au département préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous venez de publier chez Fayard « Histoire de mammouth ». On verra si on peut réussir à faire des liens entre la période préhistorique et la période que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Pour discuter avec vous, Milad Wehi, bonsoir. Historien des religions et philosophe, vous êtes titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'université Paris 4 Sorbonne. Vous aviez publié en 2011 aux éditions du Seuil « Pour un humanisme numérique » et vous publierez dans quelques jours aux éditions Hermann « Un sauvage chez les geeks ». Et puis notre troisième invité, c'est Alexandre Lacroix. Bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe, écrivain, vous dirigez la rédaction de Philosophie Magazine et vous venez de publier chez Alary Éditions « Ce qui nous relie », qui est une sorte à la fois de carnet de voyage dans le monde du numérique, des vrais voyages physiques, et puis une réflexion sur ce que le monde numérique modifie dans nos vies au quotidien et même plus largement que ça. Alors on verra dans un instant, puisqu'on pose la question de savoir si le numérique fait de nous une civilisation supérieure, si il faut d'abord même envisager les civilisations sous forme de hiérarchie, mais il faut peut-être d'abord se poser la question de savoir si il existe véritablement une civilisation numérique. Milad Wehi, vous, c'est une formulation que vous reprenez à votre compte. Vous parlez dans ce livre que j'évoquais tout à l'heure de civilisation numérique. En quoi on peut dire que les critères sont réunis pour en faire une civilisation à part?
Je crois que ce qui est différent avec le numérique, ce n'est pas seulement les usages et les pratiques, parce qu'on a tendance souvent à regarder de ce côté-là. C'est plutôt la radicalité du code informatique. Et c'est ça qui, pour moi, donne cette dimension de nouvelle civilisation. Parce que le code informatique, c'est quelque chose d'inédit dans nos sociétés. On avait des calculs complexes, mais la nature du code, et surtout à la fois depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, en passant vers les algorithmes et des choses de plus en plus complexes, nous montre qu'on est quand même passé à une phase complètement différente. Et c'est, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il y a peut-être une nouvelle civilisation.
Est-ce que pour vous, c'est une civilisation qui se substitue à une autre ou bien qui coexiste avec civilisation plus ancienne qui serait issue, disons, de la révolution industrielle?
Bon, je crois qu'elle cohabite, évidemment, avec ce qui l'a précédé, mais en même temps, elle a tendance à essayer de numériser, de faire passer de ce qu'on a hérité, de ce qui a déjà existé, pour qu'il passe en voie du numérique. Non pas tout, effectivement, mais il y a quelque chose dans l'informatique et le numérique comme une sorte de quête à l'absolu qui est assez problématique et qui mérite d'être discutée.
Vous qui travaillez sur le temps très long, Marilène Patou-Matisse, puisque vous vous intéressez donc à la préhistoire, est-ce que vous considérez que parler aujourd'hui de civilisation numérique pour un changement qui est important mais qui est quand même extrêmement récent, on s'en est rendu compte il y a moins d'une vingtaine d'années, est-ce que ça vous paraît pertinent de parler aujourd'hui de civilisation numérique?
C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas dans cette civilisation, mais je crois pour ce que j'en sais, parce que je ne suis pas du tout spécialiste comme vos invités, moi je crois qu'on va avoir une civilisation numérique. Mais on n'y est pas encore, on est au départ, mais comme toute civilisation qui se met en place, moi je crois, mais la seule chose où je serais plus circonspecte, c'est le fait de supérieur. Moi je pense que notre histoire de Ménidée, qui commence il y a très longtemps, mais même si on prend les sociétés plus tardives, c'est quand même il y a plusieurs milliers d'années, ont eu aussi des civilisations, et l'Antiquité a eu des civilisations, etc. Elles se succèdent, elles sont... Alors, est-ce que, moi je pense que j'ai beaucoup travaillé sur cette question dans un précédent livre, Le Sauvage et le Préhistorique, Miroir de l'Homme Occidental, c'est est-ce qu'en fin de compte, parce que nous sommes maintenant, donc après d'autres civilisations, elles sont forcément supérieures. On voit bien que non, toutes les cultures sont buissonnantes et il n'y a pas de hiérarchisation. Cette hiérarchisation, c'est un petit peu le paradigme qu'il y avait au 19e, avec une vision toujours unilinéaire et progressive de l'homme et aussi des civilisations. Donc c'est plutôt ce supérieur. Mais par contre, je pense que c'est tellement important, ça va toucher... surtout avec la globalisation, tellement de monde, c'est vrai qu'on est dans un mouvement quand même qui paraît de fond sur vraiment une civilisation.
Mais quand vous dites que c'est trop tôt pour en parler, ça veut dire qu'on n'a pas le recul nécessaire et que les autres civilisations, et peut-être celles que vous avez étudiées, ont mis beaucoup plus de temps pour finir par s'installer, même si aujourd'hui on voit bien qu'avec justement l'information qui est extrêmement dense, le temps s'accélère.
Oui, tout à fait, le temps s'accélère parce qu'il y a plein de choses, c'est comme un matelas, hein. C'est-à-dire qu'il y a tellement, les connaissances s'accumulent, donc tout ça va plus vite. Mais ce qui est important de voir, c'est que une innovation, si on prend en termes d'innovation qui va faire des civilisations différentes, là c'est une innovation majeure, il faut qu'elle soit partagée par un grand nombre. Voilà, chez nous on parle de démographie qui va, il faut que, comme la langue, il faut des locuteurs, plus il y en a, plus ça se diffuse et plus ça va s'installer un peu partout, se généraliser. Et donc cette innovation doit s'installer dans le long terme. Et là je pense qu'elle est au début. Et moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas du tout de boule de cristal. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'elle va être rejetée? Est-ce qu'elle va être acceptée? Est-ce qu'elle va être partagée? Donc, l'avenir le dira. Mais moi, je pense que c'est un changement majeur.
Alexandre Lacroix, on y sera bientôt dans cette civilisation numérique? On y est déjà?
Les choses vont vite, hein. Il y a quand même, entre 2 et 3 milliards d'humains connectés actuellement. Et comme il y a des jeunes et des personnes âgées, ça veut dire que ça représente une grande partie de la population active globale. Mon métier principal, c'est d'essayer de porter un regard philosophique sur l'actualité. Et j'ai l'impression que si on s'intéresse au présent et qu'on essaye de le resituer dans une compréhension conceptuelle ou historique, il y a deux manières de voir le temps présent. C'est-à-dire, il y a une manière un peu dépressive, et c'est souvent celle qu'on trouve dans les médias. C'est-à-dire qu'effectivement, nous autres Européens, on a le sentiment globalement de vivre une période de déclin, d'être sur le déclin de la grande histoire de notre continent, d'avoir derrière nous les grandes heures de l'Europe, celle où l'Europe a pu imposer son hégémonie pour le meilleur et pour le pire au reste du monde. Et puis, le déclin serait inéluctable. Si c'est juste, on serait un peu comme les citoyens de la ville d'Alexandrie, vous voyez, qui ont derrière eux les grandes heures de Rome et d'Athènes au 1er siècle de notre ère et qui sont à la fin de l'Antiquité, Antiquité tardive, Modernité tardive, on serait en train d'assister à notre déclin. Ça, c'est la vision triste de notre histoire. Je crois qu'il y a une vision de notre histoire, je ne vais pas dire qu'elle est plus optimiste, mais elle est plus dynamique, plus intéressante et qu'elle est tout aussi juste, qui consiste à dire qu'on a eu de la chance aussi. Moi, je suis né en 1975, donc je considère que, effectivement, j'ai eu de la chance parce que j'ai assisté à une des mutations les plus rapides de notre civilisation, je dirais plus qu'occidentale, c'est-à-dire planétaire. Une mutation très rapide induite par la technologie, c'est-à-dire par la création du web qui date de 1989, mais qui trouve vraiment sa pleine expansion à la fin des années 1990. Et pendant ces 25 ans, 26 ans, on a vu se transformer la manière dont on travaille, dont on fait de la recherche, dont on enseigne, dont on aime, dont on entretient des amitiés, dont on vit, dont on se rapporte à l'État, dont on fait de la politique. Donc on a là une innovation certes technologique, mais qui touche à toutes les sphères de l'activité humaine. Et je dirais que voilà, la belle manière de voir notre histoire, c'est de se dire, nous sommes témoins d'une naissance.
Donc le numérique nous aiderait peut-être aussi à penser contre cette idée de déclin, Alexandre Lacroix, mais peut-être aussi de le penser un peu trop, c'est-à-dire d'en faire une forme de nouvelle croyance, non ?
Il y a des dangers qui sont inhérents je suis pas un optimiste béat de la technologie, c'est pas ce que je veux laisser penser, mais d'un autre côté, il faut se rendre compte, il faut prendre la mesure d'une révolution. Moi j'appelle ça une révolution du signe. Il y en a eu 3 dans l'histoire humaine: l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et l'invention du web.
Mais Marie-Hélène Patomatis qui a l'air de hocher un petit peu la tête. Oui. En termes de rupture, vous ne feriez pas la comparaison avec ces ruptures-là ?
Non, mais une fois de plus, mais je veux dire, je suis tellement habituée à ça. Une fois de plus, on part de l'écriture. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qui est avant, ils ne sont pas entrés dans l'histoire. Non, il faut arrêter. Je pense que quand même, il y a quelque chose de très fort. Je suis désolée, c'est les premiers et tout qui ont compris le concept de tailler un outil, de faire une chaîne opératoire.
Il n'y avait pas d'histoire avant l'écriture. Hein.
Non, mais c'est très important. S'il y a des innovations majeures, l'écriture est une innovation, mais avant il y a l'outil et il y a le feu. Voilà, c'est simplement parce qu'on oublie toujours. Voilà, on commence toujours à l'écriture,
mais
ça se comprend.
Oui, je crois que effectivement ici on est devant un paysage très très vaste qui rend les choses difficiles. Mais il me semble, moi je partage absolument ce qui a été dit au sujet de la supériorité. Par contre, la différence elle est très très importante. Le numérique, l'informatique, il me semble, on a besoin peut-être de distinguer entre informatique et numérique. L'informatique ça va être l'aspect technique, l'aspect industriel, le code, mais en partie le numérique, on va dire pour aller vite, ce sont les aspects socioculturels et économiques qui ont été induits par l'industrialisation et surtout la manière dont l'informatique est passée à un usage à l'échelle dont on vient d'évoquer. Et entre les deux, effectivement, quelque chose qui se passe. Du coup, ce n'est plus en relation avec l'écriture, et qui me semble qu'il faut peut-être la situer, mais plutôt quelque chose qui va dépasser certaines notions d'outils qu'on a héritées et qui modifie la manière dont on pense l'instrument. Je crois que c'est ça ce qui est très particulier avec, si on accepte l'expression, de la civilisation numérique. Parce que c'est quelque chose qui est à la fois du code, des instructions pour l'ordinateur, mais en même temps c'est quelque chose qui est lisible, qu'on peut modifier, sur lequel on peut intervenir à tout temps. Il n'est jamais achevé, il est toujours à être visité. On n'a pas eu d'équivalent de ce point de vue à l'échelle qu'on a.
Ça veut dire que pour vous, Milad Weill, le terme d'outil est insuffisant pour définir ce qu'est le numérique ?
Oui. Moi, je crois que c'est quelque chose de plus large, plus complexe qu'un outil. Il a une partie d'outil très, très importante, mais il y a une partie, moi, je n'ai pas un mot pour le désigner, et c'est là où j'ai peut-être une difficulté. Mais néanmoins, quand on regarde le code, à mon avis, il ne faut pas le sacraliser. On dit c'est quelque chose qui va être juste appliqué tel quel, parce qu'il est vivant, il est dans ce sens-là, il s'adapte au contexte dans lequel il est déployé. Il a toute une série de particularités, de spécificités qu'il ne faut pas oublier.
Est-ce que de ce point de vue, on pourrait tisser des parallèles avec l'histoire de l'humanité, Marie-Hélène Patomatis, et par rapport à la place qu'ont pu prendre justement certains outils dans notre histoire ?
Oui. Mais moi, je pense que, pas toutes, mais les grandes innovations majeures, comme celles dont on parle aujourd'hui, elles sont toujours avec des conséquences sociales, avec des changements de structure sociale. Lorsque quelqu'un a compris, ou plusieurs ont compris, parce que c'est ça qui est intéressant, que par exemple pour le feu, ça a été compris à plusieurs moments, parce que les capacités cognitives le permettaient, qui étaient en place, c'est en fin de compte la friction, hein, ça a été compris, mais ça a changé complètement. Non seulement ça a changé, si vous voulez, au niveau du quotidien, tout, mais ça a modifié les structures sociales, ça a fait qu'il y a eu cette coopération autour du feu, enfin tout ce que ça donnait, toute la symbolique, toute la cosmogonie s'est créée autour de ça. Donc il y a toujours, je pense, si vous voulez, il y a toujours, on a l'impression, parce que on est tellement dans ce qu'on vit, donc on a l'impression qu'on est les choses les mieux, mais il y a toujours des changements radicaux. Ça a changé la société, les structures sociales, les déplacements. Je pense que les migrations, si on est sorti d'Afrique, là aussi. Donc je pense que c'est presque conséquences des grandes innovations.
Mais je partage entièrement ce que vous dites, sauf je crois que la différence entre le code et le feu ou d'autres aspects est importante à retenir. C'est tout.
Moi, je dirais, pour faire un trait d'union avec ce qu'on disait sur la préhistoire, qu'il y a aussi des expériences qui sont modifiées par la technologie. Alors, certes, c'est émergent, on a le nez dessus, mais il y a des choses qui sont troublantes et qui sont difficiles à détecter. Je donne un exemple très simple. Vous avez peut-être, si vous avez un smartphone, une petite application qui sert à vous géolocaliser, qui peut vous servir à l'occasion de GPS, c'est-à-dire à vous guider, en fait, si vous êtes perdu à pied, en vélo, en voiture. Alors, ça touche à une expérience très profonde et très ancienne qui remonte au moins à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'est-à-dire que quand j'étais jeune encore, il nous arrivait avec mes parents de nous perdre. C'est-à-dire d'être perdu en forêt, d'être perdu en montagne, et l'anxiété, l'angoisse qui vient à la fin de la journée parce qu'on ne sait pas comment on va rentrer chez soi, je dirais que c'est une des expériences ancestrales, c'est une sorte d'expérience fond de l'humanité, on retrouve ça partout, on est perdu. eh bien, tout d'un coup, le fait de ne pas être perdu à travers une simple application, ça montre bien que là, quelque chose de profond, existentiellement, peut être modifié par la technologie.
Mais est-ce qu'on y perd quelque chose ou est-ce qu'on y gagne quelque chose?
Moi, je réfléchis ni en termes de technophobie, ni en termes de technophilie. Imaginez un débat entre intellectuels, on serait en 1870, qui se mettrait autour d'une table en se disant, bon, l'électricité, c'est bien ou mal? C'est ridicule. C'est-à-dire, la chose intéressante, c'est de comprendre ce qui est modifié. Dans le cas de l'électricité, c'est le rapport à la nuit dans les villes qui va être totalement modifié, par exemple. Et c'est ce genre de choses qu'il nous faut saisir.
Sauf que est-ce que c'est pas justement peut-être le travers qu'on peut avoir quand on réfléchit au numérique, au changement que ça a induit, Emile Edouéhi, de penser en termes de bien ou de mal, de progrès ou de régression?
Oh, je crois que c'est la mauvaise question si on la pose de cette façon-là. Ce qui est intéressant dans le numérique, c'est la manière dont il semble opérer des ruptures sur des choses qui sont dans la continuité sur la longue durée. Je crois que c'est ça ce qui est intéressant, mais on a eu la tentation et la séduction d'un discours qui nous promet des révolutions, comme vous avez évoqué avec l'application qui est annoncée, comme des sortes de promesses de bonheur qui vont tout résoudre. Mais au-delà de là, je dirais, il y a également avec nous quand même des modifications qui vont être évoquées. Moi, je vais les formuler un peu différemment. Avec le GPS, la géolocalisation, les aspects problématiques de la surveillance et ainsi de suite, de la traçabilité, d'accord. Mais en même temps, ce qui est curieux, si on réfléchit, c'est-à-dire l'espace habitable, la terre habitable a été modifiée à la fois dans notre perception et dans la manière dont on se la représente. Là, c'est quelque chose d'assez intéressant à étudier et à suivre. Et on voit très bien, si on reprend le point de vue d'un ethnologue ou anthropologue qui allait dans la terre habitée, comme il disait à l'époque de Lévi-Strauss et d'autres, maintenant elle est habitable différemment. On peut vérifier des choses, et la cartographie numérique a modifié notre regard sur l'espace qu'on habite et dans lequel on circule. La ville, c'est le lieu d'expérimenter avec cette option. Si je me permets une seconde, au début du XXe siècle, un grand sociologue, Zemmel, avait fait un très beau livre sur la vie des grands esprits dans la ville. Et il était très frappé, c'est assez intéressant de le relire aujourd'hui, que selon lui, l'esprit contemporain à l'époque était devenu calculateur. On a l'impression aujourd'hui qu'il est devenu calculable, je dirais, par tout ce qu'on est en train de collecter, de tracer, de faire avec. Et il y a quelque chose qui s'est déplacé. Et la question intéressante, c'est de comprendre et savoir qu'est-ce que ça veut dire.
L'espace habitable, Marilène Patoumatis, ça c'est intéressant de votre point de vue. Là encore, en quoi peut-être la maîtrise du feu, la maîtrise des outils ont pu justement aussi modifier cet espace.
C'est-à-dire que de toute façon, avant, vous savez, pendant très longtemps, on était chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire que l'homme a attiré tout ce dont il avait besoin dans la nature. Et pour ça, on crée, comme tous les prédateurs, on a des cartes mentales. C'est-à-dire que notre cerveau va créer des cartes mentales qu'on a toujours. C'est-à-dire dans le métro, vous n'êtes pas toujours en train de regarder. Une fois que vous avez compris, tous les jours, vous prenez le même endroit, vous avez formé votre carte mentale, vous ne regardez pas votre plan pour rentrer chez vous. C'est mécanique. Et là, c'était pareil. Mais je pense où il faut réfléchir, où il y a peut-être... Parce que moi, je suis plutôt comme vous, optimiste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je pense qu'il ne faut pas dire c'est bon, c'est pas bien. Mais c'est de toute façon. Mais moi, ce qui me gêne un petit peu, quand je vois tout ça, c'est, et je ne vais pas me mettre à la place d'Einstein et me considérer comme Einstein, mais c'était son souci majeur, c'est que plus ça va, moins chaque individu sait. C'est-à-dire que quand on voit tous les progrès techniques, etc., mais même des choses très simples, vous parliez de l'électricité, qui sait ? Combien le pourcentage au niveau mondial de personnes qui savent comment fonctionne l'électricité? Les gens appuient sur un bouton. Et donc, il y a cette accélération des connaissances et tout, mais dans peu de connaissances, peu de mains, peu de cerveau en réalité. On utilise une télévision, personne. Moi, j'ai posé la question autour de moi à des gens qui sont quand même certains. On appuie sur un bouton, mais personne. C'est-à-dire que, et tout ça et peut être aussi à réfléchir. On ne sait plus faire grand-chose dans ce monde qui est de plus en plus...
Alors, donc,
si
le Marilyn Patoumatis,
quoi que ce soit, c'est un peu dramatique.
Il y aurait une forme d'expérience archaïque, enfin, une des formes d'expérience archaïque qui pourrait être celle de la mémorisation et le numérique accélérerait cette perte de mémorisation, oui, en déléguant peut-être la connaissance, alors soit à un collectif, soit à des machines.
Voilà, exactement. Et je pense que c'est une vraie réflexion à mener parce qu'il ne faut pas arrêter, parce qu'il y a ça comme perspective, il faut réfléchir, pas paniquer. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est ça. C'est-à-dire que plus on va, moins de gens savent.
Est-ce qu'il y a une
déperdition sur des boutons ?
Est-ce qu'il y a une déperdition individuelle de connaissances, sait... Alexandre Lacroix, peut-être d'ailleurs au profit d'un collectif.
Vous appuyez sur un smartphone, vous appuyez sur les touches.
Alors,
je ne sais pas comment ça fonctionne.
Je voudrais rebondir sur cette question de la mémoire. C'est intéressant parce que dans les dialogues de Platon, on voit que Socrate marque un point de passage entre une civilisation encore très orale et une civilisation écrite. Et donc le dialogue de Platon, c'est une forme qui est un peu entre les deux, justement. Et Socrate, à un moment donné, dans le Phèdre, s'inquiète de l'invention de l'écriture. Enfin, il parle de l'invention de l'écriture qui fait remonter aux Égyptiens. Et il dit, mais c'est à travers un mythe qu'il raconte, il laisse entendre que c'est une perte pour l'humanité qui va avoir une fausse science, qui n'aura plus qu'une apparence de science à travers l'écriture, et surtout qui va perdre sa mémoire. Et puisqu'effectivement, dans une civilisation orale, il faut retenir. Et donc, il y a une grande inquiétude de Socrate par rapport à la perte de mémoire induite par cette nouvelle technologie qui est l'inscription. Et là, je dirais qu'on voit réapparaître ce fantasme aujourd'hui et qu'on lit beaucoup de choses suivant lesquelles les jeunes n'auront plus de mémoire, n'ont plus d'attention profonde, ne mémorisent plus. Et je crois qu'en fait, le fait d'être inquiet pour la mémoire, c'est tout à fait pertinent, mais c'est pas la mémoire individuelle qui est menacée. J'ai lu un tas d'études scientifiques sur les jeunes qui, soi-disant, ne mémorisent plus. Je suis assez sceptique, j'avoue. Mais par contre, la mémoire collective est menacée. Pourquoi ? Parce que les traces que nous avons laissées sur du papier sont des traces qui se sont très bien conservées à travers les siècles. Les traces que nous avons laissées sur des disquettes sont déjà, pour la plupart, illisibles ou effacées. Plus que ça, toutes les banques de données sont en train de devenir, elles étaient des banques de données papier, les banques de données de la police, des banques de données numérisées, qui sont actualisées en temps réel et dont on ne mémorise pas les états successifs. Et donc ce qu'on voit petit à petit se complexifier, c'est les outils pour les historiens du futur. C'est-à-dire que notre histoire collective, elle est inscrite dans des supports qui sont actualisés en temps réel. Donc là, c'est peut-être la mémoire collective qui est menacée et pas la mémoire individuelle.
Emilad Wey.
Oui, c'est une question que j'avais travaillée depuis des années, effectivement. Il y a une certaine fragilité du support numérique qui touche à la fois à la matérialité, mais aussi à la nécessité de convertir au fur et à mesure en des formats, et puis après de mettre à jour avec ce qui est perdu. Il me semble, pour moi, c'est pas un problème. Parce que l'histoire et l'archive ou le patrimoine se sont constitués par ce qui a survécu en grande partie. Et du coup, moi, ça me gêne pas du tout, je crois. Par contre, ce qui est peut-être intéressant de mon point de vue, à moi, qui est peut-être excentrique, c'est qu'on a confondu la mémoire du réseau avec la mémoire humaine collective. Je crois que ce ne sont pas du tout la même chose. Et là, je crois que c'est très important. Il y a des moyens de transmettre, il y a des modalités que ce soit même d'oral qui revient à sa façon avec le numérique. Alors, par exemple, on peut avoir des archives sonores beaucoup plus intéressantes aujourd'hui qu'on pouvait avoir même au début du XXe siècle et après. Je crois qu'il y a eu une confusion entre la mémoire du réseau, en partie, curieusement, qui a été nourrie par un imaginaire qui était celui de la bibliothèque universelle, qui venait de quelqu'un comme Borges, et qui ne correspondait pas du tout, en fait, à ce qui s'est mis en place.
Il y a un de vos collègues philosophes, Michel Serres, qui, sur ce sujet de la mémorisation, de l'éventuelle perte de mémoire, dit ceci, que la numérisation de notre mémoire va permettre d'économiser notre capacité cérébrale en évitant de nous souvenir de données inutiles et que ça favorisera le développement d'une intuition novatrice et vivace. Vous en pensez quoi, Emilad Wey ?
Oui, c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Moi, ce que je trouve intéressant...
Parce que là, il y a quand même justement l'idée d'avoir, si ce n'est un surhomme, enfin en tout cas, un homme beaucoup plus évolué.
C'est un saut cognitif qu'on va faire autrement. C'est contre la thèse de Nicolas Carr et on connaît ça très bien. Moi, je trouve ça pas aussi intéressant, mais peut-être je me trompe. Ce que je trouve intéressant, c'est le statut de l'oubli dans le numérique. Et là, on a un vrai problème. Le numérique ne sait pas traiter avec l'oubli. L'oubli, c'est une faille technique, c'est une perte, c'est quelque chose qui s'est effacé. Pour l'humain, c'est déterminant.
Marilène Patoumatis.
Je reviens. C'est-à-dire que je pensais pas spécialement à la mémoire. Je pensais à des savoirs qui vont être regroupés c'est l'impression que j'ai au fil du temps où c'est regroupé de plus en plus dans peu de mains et dans peu de cerveaux. Parce que là, je suis désolée, c'est pas l'utilisateur n'est pas le concepteur et n'est pas non plus ne peut pas forcément en plus comprendre le concept qui est mis en jeu. Et moi, c'est ça qui me fait peur parce que tout ça, bien sûr, on est dans la science-fiction. Tout ça échappe et j'ai peur qu'à un moment donné, comme tout va très vite, qu'il y ait peut-être quelque chose qui échappe et qui aille dans certaines mains, qui soit voilà. Parce que moins on sait, plus on est.
Donc vous faites moins confiance en l'homme de 2016 que dans celui de Néandertal, par exemple.
Ah, ça c'est clair. Non, c'était joke. Mais je pense qu'il faut s'interroger. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire attention. Vous savez, je reprends un truc très simple. Mes arrière-grands-parents et tout, ils construisaient leur maison et savaient tout faire. Enfin, j'exagère. Ils savaient quoi, c'est... Plus ça va, plus on est dépendant. Et plus ça va, plus on est dépendant, en plus sans pouvoir connaître, parce que c'est tellement spécialisé, tellement différent de ce qu'on peut apprendre à l'école, etc., ou plus tard, même à la fac, que voilà, c'est une question, je pense, qu'il faut soulever, c'est ce savoir est quand même dans peu de mains.
Enfin, plus ça va, mais plus on est dépendant, plus ça va, et peut-être aussi, et on est interdépendant. Il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé, il me semble, ce soir, c'est celui de la coopération, qui nous renvoie d'ailleurs peut-être à des formes, oui, là aussi archaïques, d'organisation de la société. Justement, dans votre tour du monde, comme je disais au début de l'émission, Alexandre Lacroix, du numérique, cette volonté d'organiser des sociétés qui coopèrent, qui créent de la coopération entre les individus, ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort, justement, dans cette civilisation numérique.
Oui, alors si vous me lancez là-dessus, c'est vrai que moi j'ai envie de vous faire carrément peur, à vous ainsi qu'à vos auditeurs.
Parce allez-y.
Effectivement, pour mon livre, j'ai voyagé et je suis allé dans la Silicon Valley, j'ai rencontré un certain nombre d'investisseurs. Alors, il y a un discours utopique qui est tenu là-bas, qu'il ne faut pas prendre à la lettre, mais qui est le suivant. Il s'organise autour d'un concept qui est celui de singularité technologique, qui vient d'un mathématicien et auteur de science-fiction qui s'appelle Werner Winge. Il a eu l'idée en 1993. La singularité technologique, c'est quoi? C'est l'idée de créer une entité qui serait supérieure en intelligence à l'homme. Ce qu'on pourrait parvenir à faire soit en branchant le cerveau humain sur le réseau, soit en construisant une intelligence artificielle exceptionnelle. Alors la prédiction de Werner Winge, c'est que une fois que cette machine, cette entité, cette singularité existera, toutes les lois de l'histoire seront abolies. Pour quelle raison? Parce que c'est cette machine qui prendra en charge les sociétés humaines, qui gérera par exemple les flux de marchandises, les flux de nourriture, mais qui aussi inventera toutes les machines à venir. Et donc nous entrons dans un monde post-humain. Alors, cette thèse, elle a végété comme ça, elle n'était pas très importante, puis elle a été reprise et remise au goût du jour par Ray Kurzweil, qui est le chef de l'ingénierie de Google, et qui a fait un livre un best-seller aux États-Unis qui s'appelle « La singularité approche ». Et aujourd'hui, je dirais, il faut pas.
Lui dit, le vrai changement de civilisation, il va arriver aux alentours de 2045. Hein, c'est ce que j'ai lu dans votre livre.
Ça sera la
fusion entre la technologie et l'intelligence humaine.
Alors ça, c'est le discours utopique. Alors plus concrètement, les gens qui travaillent dans la Silicon Valley aujourd'hui, dans beaucoup de startups, j'ai vu autant de médecins que de programmateurs informatiques. Et ça, c'était ma grande surprise. C'est un milieu de médecins et ils travaillent vraiment sur les interfaces corps-machine. Ils travaillent sur le médical. Et cette grande utopie sert à créer des choses. Je vais juste attraper, je vous donne un exemple. Par exemple, des nouveaux médicaments. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'intoxique parce que vous prenez de l'aspirine, on prend tous la même dose, on prend 500 mg. C'est pas bon. Peut-être que pour vous, il en faut 220 et pour moi, 370. Leur idée, c'est de pouvoir compiler les données biologiques, biométriques de chacun, par exemple sur une clé USB, d'avoir une posologie personnalisée chez le médecin et de faire imprimer les molécules actives dans une pharmacie Fab Lab. En fait, ces gens, ils vous parlent d'une entité supérieurement intelligente, mais ce qu'ils sont en train de faire concrètement, c'est de bosser pour rafler par exemple le marché de la médecine.
Ces gens-là, ils sont représentatifs du monde numérique, Milad Wahi. Est-ce qu'on n'est pas quand même confronté aujourd'hui à une forme d'un nouveau scientisme, comme on a pu le connaître à l'époque, en pensant que justement, là, le numérique va tout résoudre et va faire de nous des êtres supérieurs, pour reprendre un peu le titre de l'émission.
Je crois que supérieur, c'est compliqué. On va dire...
Plus évolué, oui. Plus
intelligent pour certains, ça peut varier, mais quand même, ça a une longue histoire. Rappelons-nous quand même que toutes ces théories reviennent à John von Neumann, qui avait quand même, dans le cerveau et l'ordinateur, été le premier à articuler la construction d'une machine sur le neurone. Mais on a souvent oublié sa conclusion. Dans sa conclusion de la dernière page, il nous dit qu'on peut arriver à un certain moment dans le calcul complexe à reproduire des résultats assez difficiles pour la machine aujourd'hui, mais il ne faut surtout pas se tromper et prétendre qu'on est arrivé à comprendre et saisir dans la machine comment le cerveau fonctionne. Il était extrêmement prudent. Alors effectivement, on a eu un virage qui est en train de se mettre en place. Je crois,
Si on regarde quelqu'un comme Norbert Wiener, qui était le père de la cybernétique en 1950, il s'est intéressé à cette question qui revient aujourd'hui avec les transhumanistes, les gens de la singularité. Ce qui les intéresse, à mon avis, pour aller vite, c'est les liens qui peuvent exister entre l'automatisation et l'autonomie de l'humain. Et cela se fait dans une réflexion et dans un travail d'ingénierie entre l'informatique et les sciences de vivant. C'est là où on a une énorme convergence aujourd'hui qui produit des choses. Mais je voulais quand même rappeler un aspect avant de rester avec les transhumanistes. Quand on parlait de l'électricité et du code, et je peux partager entièrement ce que vous avez dit sur l'électricité, mais avec le code, j'aimerais rappeler deux choses. Les plus grands informaticiens, à quelques exceptions près, sont des autodidactes. C'est assez important à se rappeler. Ce n'est pas des diplômés universitaires, ce n'est pas des gens qui ont fait des années et des années d'études. Il y a un aspect de bricolage, d'apprentissage qu'on fait soi-même, qui permet d'entrer dans ce que l'électricité ne permet pas, parce qu'on n'a pas tous les moyens, et ainsi de suite. C'est là où il y a une particularité de l'informatique, même si elle est à l'échelle industrielle.
Ah bah cela dit, le premier homme qui a maîtrisé le feu était peut-être un autodidacte, Marie-Hélène Patoumatis. Ah
bah ça c'est sûr, il n'a pas été à l'université. Oui. Non, mais ce que je veux dire, moi qui me paraît important, là je vais peut-être paraître... un peu, je sais pas, archaïque. Mais ce qui me paraît important, une innovation, pour moi, quelle qu'elle soit, elle doit être partagée par tous. Et quand j'entends, bien sûr, Silicon Valley, tout ça, j'y suis allée, je connais aussi, enfin, j'ai pas été voir les mêmes personnes, sans doute. Mais je veux dire, pour moi, ce qui me tracasse, m'inquiète quelque part aussi, c'est que quand même, je suis désolée, en tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, c'est très peu de personnes. C'est dans les mains de très peu de personnes. Il y a peu de gens qui sont regardés actuellement. Moi, je vais beaucoup en Afrique. Comme vous le savez, j'avais vécu chez les Bushmen dans le Kalahari, etc. Je connais très bien l'Afrique. Et là, est-ce que ces gens vont participer de ce mouvement? Parce qu'on dit toujours, mais oui. Mais on voit bien qu'ils n'ont même pas, il y en a certains, je suis désolée, ils n'ont même pas l'eau, etc. Donc, je veux bien tout ce qu'on veut, mais je me dis, est-ce que là, quand on pense à ces transhumains, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va vraiment mettre tout le monde ou est-ce qu'on va revenir avec... des gens qui vont être moins intelligents. Vous parlez beaucoup d'intelligence, moi ça fait très peur. Qu'est-ce qu'intelligence supérieure? Qu'est-ce que ça veut dire une intelligence supérieure? C'est pas parce qu'on envoie des satellites qu'on est plus intelligent qu'un bushman dans le Kalahari qui sait trouver l'eau avec une toute petite plante qui sort. Donc je pense que c'est un petit peu ça, on oublie quelque part la majorité de la planète. C'est-à-dire que là, et c'est bien parce qu'il faut comme ça qu'on progresse en science, d'accord. Mais il faut faire attention. Voilà, j'ai très peur qu'on revienne à une société avec des castes. Voilà, qu'on revienne à une société avec ceux qui savent pas, les esclaves et les maîtres.
Est-ce que la généralisation de la diffusion du numérique vous semble quelque chose de totalement irréversible et inéluctable, Milad Wehi, ou vous partagez un peu quand même les inquiétudes?
Non, mais
de
je crois qu'il y a une nouvelle hiérarchie, il y a de nouveaux clercs, on a une nouvelle aristocratie, ça, il n'y a aucun doute. Il suffit de regarder autour de soi pour l'observer. Ce sont les gens qui maîtrisent le code, il suffit de regarder du côté hacker ou de l'autre côté. Il y a quand même une compétence qui fait une différence assez importante. Par contre, ce qui est différent, on peut apprendre soi-même. Je crois que c'est ça ce qui est intéressant.
Est-ce que la nouvelle aristocratie, ça ne sera pas aussi peut-être à plus long terme celle qui aura les moyens, Alexandre Lacroix, de se passer du numérique, c'est-à-dire de déléguer aussi une partie de sa vie numérique à des employés
Peut-être, pour l'anecdote, c'est vrai que j'ai passé 5 ou 6 heures à discuter avec Peter Thiel, qui était le premier investisseur de PayPal et de Facebook. Et au bout de 5-6 heures, c'est-à-dire si vous voyez un décideur politique ou économique en France, si vous le voyez en réunion, il tweet, il envoie des SMS, il consulte ses mails, enfin il a son smartphone, et en 5 ou 6 heures, il n'a rien consulté.
Voilà, ça vous a surpris, connecté. Vous vous êtes dit,
je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Là j'ai compris, bah oui, il a des gens qui le font pour lui, il a des valets d'iPhone.
Voilà.
C'est-à-dire, le dirigeant moyen a un iPhone, et il en est fier, et il le tapote, mais le vrai dirigeant, le vrai maître du monde, a des valets d'iPhone, et lui, il a du temps pour penser. Alors, ça c'est une chose, mais vous touchiez à un sujet plus essentiel qui était les inégalités possibles au sein de l'humanité. Et à la fin de cette enquête, je suis allé voir quelqu'un qui est intéressant sur la technique, qui s'appelle Kevin Kelly, qui a fondé le magazine Wired, qui est le magazine des techniques de la connexion, ça veut dire connecté, Wired. Et je lui ai posé une question, si vous la posez à un intellectuel européen, il va sécher. Je lui ai dit, mais selon vous, que sera l'humanité dans 5000 ans? Et au lieu de faire une blague, il a réfléchi longuement et il m'a dit, voilà. Il dit, je pense que dans 5000 ans, l'humanité existera encore. Je ne sais pas combien de membres aura l'espèce, mais je pense qu'elle sera toujours là. Par contre, je pense que suivant les innovations qui vont être faites en génie génétique ou en technologie, certaines sociétés ne vont pas faire certains sauts. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, vous pouvez faire cloner votre chien qui vient de mourir, que vous aimiez en Corée, mais vous ne pouvez pas le faire en France. Ça veut dire que certaines sociétés, pour des raisons éthiques, juridiques, financières, religieuses, vont pas faire certains sauts et vont rester à des stades de développement. Il m'a dit, ce qu'on va voir se multiplier, c'est comme les Amish, le modèle des Amish. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont rester à tel ou tel stade du développement de la technologie. Et donc, on aura des humains comme nous, des humains génétiquement modifiés, des humains connectés, et puis des croisements, et donc plusieurs humanités, et donc une difficulté à penser un droit pour tous.
Alors vous, Milad Doué, qui êtes un intellectuel à la fois européen et américain, comment est-ce que vous répondriez à cette question ?
Je crois que j'ai un regard très très différent sur l'Amérique, parce qu'on a trop, on ne voit que la Silicon Valley. C'est la Californie du Nord quand même, écosystème très particulier. La vallée n'existe pas, techniquement parlant. Il y a des gens, il y a des investisseurs, puis il y a des grandes entreprises. Je crois que j'ai un regard assez différent de ce point de vue-là. Et c'est curieux de voir comment c'est reçu partout en Europe de ce point de vue-là. Comme l'idéal. Mais j'ai envie de dire, juste pour terminer, moi je trouve le plus problématique avec le numérique, c'est l'appauvrissement de la possibilité de l'expression irrationnelle dans l'environnement numérique lui-même. Ça, c'est, je crois, c'est très important.
L'appauvrissement de l'expression de l'irrationnel.
Absolument.
Pourtant, alors, Dieu sait que de l'irrationnel, quand on regarde sur l'Internet, il y en a beaucoup quand même.
Mais ça dépend ce qu'on veut dire par irrationnel.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Parce que... il y a quelque chose qui est de l'ordre de, je crois que je vois, il y a...
la croyance.
Voilà.
Voilà, moi je suis d'accord avec vous.
De l'optimisation.
On n'est plus, c'est plus rationnel, hein. C'est plus dans la science, c'est plus...
Ouais. Et je crois là, il y a quelque chose qui entre. Il y a une forme de la rationalité qui impose et qui s'impose avec cet environnement qui est assez problématique.
Alexandre Lacroix ?
Oui, en fait, ça, c'est revenons au présent. Parce que là, je vous ai parlé d'hier, dans 5000 ans, donc on peut élucubrer. Mais revenons au présent. Ce qu'on voit se mettre en place, si la Google Car existe, vous montrez dedans, elle va optimiser votre trajet, mais en fait, votre GPS le fait déjà. Et si jamais vous décidez de flâner ou de faire une pause, bah, votre employeur le saura, ou la Google Car vous l'interdira, ou votre femme le saura. C'est-à-dire, en fait, je donne une image, mais ça veut dire que nos outils technologiques, on a tendance à s'en servir pour optimiser un grand nombre de comportements. Et on optimise, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait gagner de l'efficacité, ça nous met plus vite sur le marché, on part deux jours en vacances, on loue la place de parking et l'appartement, on optimise, on optimise, on optimise. Plus on optimise, plus on est dans un schéma de comportement rationnel, et moins il y a de place pour l'improvisation.
Marie-Hélène Patomatis.
Oui, moi je pense qu'il y a un mot qu'on n'a pas entendu. Et c'est ça pour moi peut-être le plus triste, c'est pourquoi faire tout ça. Parce que quand même... le bonheur, est-ce que le bonheur, là aussi, cette course à l'échalote, c'est tout ça, c'est très bien, c'est stimulant. Moi, je travaille sur d'autres choses, c'est pas sur l'humain, mais qui sont aussi peut-être novateurs, stimulants. Mais en réalité, aussi, à un moment donné, il faut poser cette question. Le bonheur, quand j'entends, c'est le bonheur pour tous, pour tous. Essayer. Alors que là, on se demande si c'est pas, en fin de compte, une espèce de course à je ne sais quoi, parce qu'on a, quelque part, on a peur, quelque part. Voilà. La notion, dans tout ça, la notion de bien-être, de bonheur, des humains. Est-ce qu'on fait ça pour ça ou est-ce qu'on fait ça parce que ça fait plaisir à ceux qui travaillent sur ça? Enfin, je pose cette question du bonheur. Voilà.
C'est pourquoi faire, Marlène Patomatis. On va peut-être vite. Justement voilà. vous donner un exemple. Et on va le faire avec Xavier Delaporte. Je vous dis bonjour, mais je devrais vous dire bonjour puisque vous êtes avec nous.
Bonsoir.
Sur France Culture. Bonsoir, même depuis ce matin pour votre dictionnaire intime du numérique. 10e page de votre dictionnaire, ce sera la dernière et vous allez nous parler de Tinder où l'amour est dans le pré.
Il s'était juré de jamais le faire, mais quand il s'est fait larguer, il s'est créé un profil sur Tinder. Il a choisi une photo assez neutre, pas trop beau gosse pour pas décevoir les filles, pas moche non plus pour que ça matche un peu. Et il s'y est mis, à mater les profils de filles dispo autour de chez lui. Swipe à gauche, je jette, swipe à droite, pourquoi pas. La première fois, ça l'a étourdi, toutes ces photos de meufs qui d'une manière ou d'une autre étaient prêtes à baiser. Et toutes là, à deux pas de chez lui. Il aurait jamais pensé qu'il y en aurait autant. Depuis, quand il croise une jolie fille, il se demande si elle est sur Tinder, c'est devenu un réflexe. L'autre jour, il en a jeté une dans un café, il est tout de suite allé voir sur Tinder. Bon, dans les faits, il lui a fallu apprendre. Tu poses quoi comme question pour voir si ça match au-delà de la photo? Il y a des tactiques. Par exemple, il laisse la fille choisir le lieu du rendez-vous, ça donne des indices. Parfois, ça suffit à en éliminer. Autre problème, comment tu fais pour avoir une porte de sortie au cas où avec la fille, c'est vraiment pas possible? Son truc à lui, c'est d'annoncer en arrivant au lieu de rendez-vous qu'il a un dîner avec des copains après. Comme ça, si ça marche avec la fille, il peut écourter sans être désagréable. Si ça se passe bien, il fait semblant d'envoyer un texto pour annuler. Comme ça, la fille, elle sait que ça se passe bien. Et en plus, elle se sent honorée. C'est du win-win. Et puis le problème, c'est quand t'as passé une nuit pas mal avec une fille. Pas mal, mais tu sais pas. Tu sais pas si t'as envie de la revoir ou pas. Tu fais quoi ? Un jour, après quelques soirées avec une fille qui lui plaisait, comme ci, comme ça, il a dit qu'il partait en week-end avec des copains en Normandie. Mais il est resté à Paris et il s'est branché sur Tinder. La fille, elle l'a vu. Et elle s'est énervée. « Ouais, tu me dis que t'es en week-end en Normandie et en fait, je te vois sur Tinder, je vois sur Tinder que t'es à Paris. T'es vraiment mytho, toi. » Et lui, il lui a répondu « Et toi, tu fais quoi sur Tinder ?» Bon, celle-là, il l'a pas revue.
Merci Xavier Delaporte. Vous voyez Marie-Hélène Patomatisque, il y a des raisons de croire au bonheur quand même.
Pas vraiment, ça se termine assez mal quand même.
Ouais, ça mène à des manœuvres, ouais, il y aura d'autres histoires et ça se passera mieux. Merci en tout cas à tous. On retrouve évidemment votre dictionnaire intime du numérique, Xavier Delaporte, sur le site franceculture.fr. Merci Milad Douéhi, Alexandre Lacroix et Marie-Hélène Patomatisque. Je rappelle vos derniers ouvrages. Histoire de mammouth chez Fayard, Ce qui nous relie chez Alary Édition, et très prochainement pour vous Milad Douéhi, Un sauvage chez les geeks, ce sera chez Herman. Toutes ces références sont sur notre site internet franceculture.fr. Voilà, je précise d'ailleurs à Milad Douéhi que vous participerez à la journée d'études du Collège des Bernardins. Ce sera le 18 février prochain. Là aussi, toutes les informations sont sur le site de France Culture. Merci à toute l'équipe du Grain. On se retrouve lundi à 18h20 pour poser la question suivante. La démocratie participative s'arrête-t-elle au seuil de l'entreprise ?